On se dit tout sur France Bleu, Ségolène Aluni.
Oui, donc on attend vos confidences hein, autour de ce sujet qui n'est pas évident d'en parler parce que c'est vrai que c'est douloureux. On a eu un sentiment de honte hein, peut-être en traversant cette période. Alors on parle tous ensemble du burn-out ce soir, de ce fameux épuisement professionnel qui touche quand même 5 à 10% de la population et qu'on surnomme d'ailleurs le mal du siècle. Alors vous avez traversé une période de burn-out, vous avez eu la sensation de toucher le fond, mais depuis vous avez remonté la pente et on s'intéresse ce soir à ça, à la période d'après burn-out, période délicate parce qu'on est fragilisé, même si on se sent mieux, on a l'impression qu'on ne va pas arriver à reprendre le boulot, qu'on va peut-être rechuter, rien que de penser à retrouver ses collègues de boulot, c'est peut-être l'enfer. Alors la solution pour vous, ça a été peut-être de vous reconvertir, de changer totalement de branche, peut-être aussi que ce burn-out vous a poussé à changer votre mode de vie, à relativiser, à apprendre à lâcher prise. Comment on vit après un burn-out? Comment on réussit à s'en sortir? Racontez-nous votre histoire. On se dit tout ce soir sur la période post-burn-out en compagnie d'un médecin généraliste spécialisé d'ailleurs en la matière. C'est le docteur François Baumann. Bonsoir docteur.
Bonsoir.
Alors vous avez écrit plusieurs ouvrages sur ce syndrome de l'épuisement professionnel. Ça fait 10 ans d'ailleurs que vous en écrivez à ce sujet. Le dernier en date étant l'après-burn-out, sous-titré « Comment éviter les pièges de la rechute ?» C'est aux éditions Josette Lyon. Un livre qui nous rappelle donc que se sortir du burn-out, c'est une chose, mais ne pas rechuter, c'en est une autre, parce qu'il y a des risques de récidive, hein, François.
Oui, il y a des risques, les mêmes risques finalement que lorsqu'on fait une dépression. C'est à peu près la même chose, d'ailleurs ça ressemble, sauf que c'est plus spécifique. Et c'est dangereux, et je vois maintenant de plus en plus de gens qui récidivent parce qu'on a du recul, on n'en avait pas tant que ça. Il y a une dizaine d'années, on en avait peu, maintenant on en a.
Ouais. Alors dans votre ouvrage, vous distinguez 3 catégories de personnes qui ont surmonté le burn-out. Il y a celles qui arrivent à s'en sortir et il y a les autres qui parfois ont plus de mal et qui ont plus de chances de rechuter.
Oui, puis il y a ceux qui s'en sortent pas très bien.
Ouais.
C'est la troisième peut-être. Voilà, je dirais que dans l'ensemble, il faut être résolument optimiste et il faut souhaiter que l'on s'en sortir. Il faut utiliser pour ça un certain nombre de moyens dont on parlera peut-être.
Mmh.
Et voilà.
Voilà, donc on attend vos témoignages ce soir. Comment vivez-vous l'après-burnout? Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Peut-être que ça vous a appris des choses, ça vous a rendu plus fort. Partagez votre expérience avec nous ce soir. On se dit tout sur l'après-burnout avec notre grand témoin, le docteur François Baumann.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu.
Comment reprendre le chemin du bureau quand on vient de traverser une période de burn-out? Vous avez vécu le harcèlement au travail, vous étiez perfectionniste au point de vous en rendre malade, vous avez cultivé un complexe d'infériorité par rapport à vos collègues de boulot, vous vous sentiez sans cesse dévalorisé, perte de confiance en soi, peur du regard des autres. La souffrance au travail, vous avez connu, mais vous avez su rebondir depuis, même si ça a été dur, parce qu'on a peut-être peur de ressentir à nouveau ces symptômes. Alors comment avez-vous fait pour surmonter le burn-out? Quel a été le chemin pour en sortir? Vous avez réussi à vous reconstruire, à reprendre sereinement le travail. Venez partager votre expérience ce soir. On en discute ensemble parce que ça peut faire du bien aussi à ceux qui traversent hein, peut-être cette période, d'entendre qu'on peut s'en sortir, que ça n'est pas irrémédiable. L'après-burn-out, on attend vos témoignages ce soir au 0810 055 056 avec un médecin, le docteur François Baumann, pour vous écouter jusqu'à 22h. Et on commence avec un témoignage dans les Alpes-Maritimes. Bonsoir Evelyne.
Bonsoir.
Alors Evelyne, vous avez traversé une période de burn-out?
Oui, si on peut appeler cela, mais c'est réactif quand même. Donc vous disiez de reprendre le chemin du travail et je poserai ce soir de peut-être reprendre un autre chemin.
Mm-hmm.
Voilà, parce que vous posiez aussi cette question, le burn-out est-il un mal du siècle? Mais face justement à cet esprit de compétition sans cesse grandit dans la société, et aussi le manque de reconnaissance et des choses très difficiles à vivre, parce qu'il faut toujours aller de plus en plus vite et de plus en plus être de plus en plus meilleur, si on peut dire, et même à un diplôme très élevé, de pas avoir cette reconnaissance-là et de pas avoir sa place là où il faut et au bon moment et au bon endroit. Donc j'étais avant dans la fonction publique et j'ai vécu aussi des pressions. Donc, je me suis dirigée vers autre chose. J'ai passé un diplôme de psychanalyste et j'ai écrit un livre, justement, Once Open Time, la dépression nerveuse, que dire d'autre.
Il était une fois la dépression nerveuse, oui, Once Upon a Time.
Parce que le burn-out, bien sûr, ça cache aussi la dépression nerveuse. Mm-hmm. Et c'est surtout objectif de l'analyse, faire face à la douleur émotionnelle, vaincre la dépression, guérir et se sentir surtout de nouveau en vie. Mm. Donc, voilà, je voulais surtout témoigner sur cela, c'est de ne pas reprendre le même chemin, mais de changer de chemin. Je sais que ce n'est pas très facile. Et justement, vous avez des cabinets de psychanalyse où...
Et comment vous avez fait justement, Evelyne, pour en sortir? Quelles ont été vos aides?
C'était ça ou mourir. C'est pour ça que je parle de vie. Parce qu'arrive un moment, la souffrance, le taux de souffrance étant tel, le vide et le non-sens de la vie tellement important que, ben voilà, c'est, tout le monde peut avoir ce déclic en une fraction de seconde. Et quand on en a conscience, donc on prend du recul et se sort, hein, voilà, et on prend un autre chemin, et peut-être justement de reprendre tous les problèmes sociétaux, son problème de développement de vie, tout ce que l'on a vécu, voilà, tout ce que l'on nous fait aussi apprendre dans le savoir intellectuel, mais qui nous empêche de l'avoir de la connaissance, hein, ouais. La connaissance de soi déjà, et surtout de voir ce qui se passe autour de nous. Parce qu'on donnerait jusqu'à sa peau, quoi, même pour le travail, et ça n'en vaut pas la peine. Donc, au lieu de reprendre le chemin du travail, comme vous disiez, c'est de décider, de choisir, de prendre un autre chemin pour rester en vie.
Docteur voilà. François Baumann, vous vouliez réagir aux commentaires des...
Oui, je trouve cet exposé de cette dame qui a souffert de cette maladie, de ce mal-être, difficile de dire que c'est vraiment une maladie. Ça en a tous les aspects, mais ça n'est pas encore catalogué comme tel, en tout cas, par les milieux officiels de la médecine, vous le savez. Je trouve qu'elle dit des choses très importantes, et notamment au sujet de la perte de sens, ou de la... en sens positif, la recherche d'un sens à la vie, d'un sens au travail. Cette perte de sens est un des éléments importants dans la genèse d'un burn-out.
Et Evelyne, du coup, aujourd'hui, est-ce que vous pourriez dire que le burn-out, ça vous a fait, entre guillemets, grandir, que vous avez réussi à vous connaître?
Alors, même pour les personnes qui ont fait du mal, je peux dire que, quelque part, ça m'a aidé. Même s'ils ne le savent pas, ils m'ont fait du bien. Parce que je suis devenue la personne que j'aurais dû toujours être, prendre la place que j'aurais dû toujours avoir et d'être libre.
Ouais. Et concrètement, juste Evelyne, qu'est-ce qui vous a mené vraiment au burn-out? C'était au quotidien, avec vos collègues, vos patrons, vous aviez une pression sur les épaules?
Oui, il y a de la pression et surtout d'être placardisée, d'être rejetée. Parce que vous êtes soi-disant une personne atypique ou parce que à un moment donné, vous reprenez des études et que vous dérangez la hiérarchie, eh bien, la seule façon de se débarrasser de vous, c'est de vous mettre dans le placard près des toilettes. Comme ça, quand on tire chaque fois la chasse d'eau, c'est vous qu'on tire dans la chasse d'eau. Voilà, donc ça existe aussi, même dans la fonction publique. Et c'est très, très douloureux. Mais quand on en sort grandi. Et je ne voudrais pas être à la place des personnes qui m'ont mené jusque-là, qui ont fait en sorte que j'en arrive là.
C'est une image
de sortir la tête.
Oui, c'est une image
métaphore
forte, violente, mais qui parle bien, en tout cas, effectivement. Bon, la chasse d'eau, ça me fait penser aussi à un ouvrage que j'ai écrit sur le bore-out, sur l'ennui au travail, la placardisation, qui finalement entraîne des symptômes assez équivalents, mais inversés.
Le bore-out peut mener au burn-out.
Non, c'est le burn-out qui peut mener au burn-out plutôt, dirais, dans la mesure où on va priver tout d'un coup quelqu'un de son activité. Or, cette dame décrit que tout d'un coup, elle s'est retrouvée au placard, isolée par rapport aux autres, et que ça l'a fait décompenser, en quelque sorte, ses symptômes.
Merci beaucoup, Evelyne, pour ce témoignage depuis les Alpes-Maritimes. Dans un instant, nous serons avec Sébastien, qui lui aussi a fait un début de burn-out et visiblement, il a réussi à reprendre le dessus. On verra ça dans un instant. Et vous avez connu donc le burn-out, la perte de confiance en soi au travail, la remise en question, le sentiment d'injustice, la surcharge de boulot qui vous ont conduit à la chute, l'épuisement professionnel. Mais vous en êtes sorti et depuis, ça va mieux. Alors on vous écoute ce soir. On se dit tout sur l'après-burnout avec notre invité, le docteur François Baumann, auteur du livre L'après-burnout aux éditions Juliette Lyon. Et on attend vos appels au 0810 055 056. Autant pour moi, c'est Josette Lyon. Oui, les éditions. Allez, à tout de suite.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout. Ségolène Aluny.
Quand le travail rend malade, on en parle ce soir sur France Bleu, puisqu'on a choisi le sujet de l'épuisement professionnel, ce qu'on appelle le burn-out depuis quelques années. Alors comment tombe-t-on dans le burn-out? Et puis surtout, comment est-ce qu'on en sort? Comment on vit après? Quelles sont les conséquences aussi sur son quotidien? Et puis comment fait-on pour ne pas rechuter, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs? Parce que les risques de récidive sont bien présents. On vous écoute ce soir, vos expériences, vos confidences dans On se dit tout sur l'après-burnout. Et pour discuter avec vous, notre grand témoin, le docteur François Baumann, auteur du livre L'après-burnout, comment éviter les pièges de la rechute. 0810 055 056. On vous attend ce soir sur France Bleu. Allez, direction les Vosges avec un témoignage de Sébastien. Bonjour Sébastien.
Bonsoir.
Alors Sébastien, vous avez fait un début de burnout. Et si j'ose dire, vous n'êtes pas allé au bout de cette maladie.
J'ai pas été au bout au niveau médical entre guillemets par rapport au conseil du médecin, mais en fait je me suis contenté d'écouter les conseils simplement du médecin traitant qui eux justement m'ont suffi entre guillemets à passer ce cap qui est pas forcément évident il y a aussi une recherche de la personne et puis de sa place dans la société et au milieu du travail quoi.
Alors Sébastien, vous travaillez dans quoi?
Alors moi c'était dans le milieu des remontées mécaniques.
D'accord.
Et voilà, donc c'était l'avantage que j'ai eu, c'était un emploi qui était entre guillemets saisonnier. Donc en fait c'était répétitif d'année en année. Et c'est revenu au fur et à mesure des années. Hein, en fait j'ai fait 8 saisons dans la boutique. Et j'ai fait moi-même en fait entre guillemets un investissement personnel de ma part dans le travail. N'aurait peut-être pas dû être poussé aussi profondément et du coup...
C'est-à-dire vous aviez une surcharge de travail que vous vous imposiez?
C'est ça. Je voyais beaucoup plus de travail que ce que j'avais à faire, en fait. Et puis du coup, ça m'a amené, entre guillemets, à des critiques des collègues, à une incompréhension des patrons, parce que c'est pareil.
Qu'est-ce qu'ils vous disaient, vos collègues? Ils vous reprochaient de trop travailler?
D'en faire plus que ce qu'il faut. Et puis je pense que ça les mettait eux aussi mal à l'aise, parce que ils avaient peut-être aussi eux entre guillemets l'impression de pas en faire assez, enfin, puis ça créait des petits conflits en fait. Mm-hmm. Des petits conflits qui sont devenus cumulés, donc c'est ça qui a fait en fait le gros du problème en fait. Ça m'a perturbé moi-même en fait, et c'est vrai, à la base c'était vraiment moi le problème. Et du coup, de par rapport à ça, j'ai fait une recherche. Donc, par rapport à mon médecin traitant, je me suis inquiété. Je me suis demandé si carrément, fallait pas carrément fréquenter un psychologue, tout ça.
Mais pourquoi? Parce que c'était quoi les symptômes, Sébastien? Qu'est-ce que vous ressentiez?
Les symptômes, je frustrais en fait. Ça me créait une frustration de par rapport à. Mm-hmm. J'avais l'impression de pas faire mon travail comme il fallait en fait, même s'il était quand même bien fait ou plus ou moins ou pas forcément comme il était attendu. Au niveau du travail, les seuls reproches en fait, c'était de trop en faire.
Ouais. Et du coup, votre médecin généraliste vous a aidé. De quelle façon, Sébastien, vous avez surmonté le burn-out?
Ça m'a surmonté parce qu'il m'a donné des petits conseils à travailler sur moi-même, à m'apercevoir, à changer mes petites habitudes. Parce que je pense que le souci, à la base, il était de la personne, il n'était pas de burn-out, c'était pas forcément de l'extérieur. Je pense que un burn-out, ça peut venir de et d'un mal ressenti et d'un mal-être, entre guillemets, par mm-hmm. rapport à l'interprétation des autres, des collègues, des clients, tout ça, et par rapport à sa satisfaction personnelle du travail. Mm-hmm. Si on fait plus ou moins bien son travail, si on a l'impression d'être utile ou pas utile, vous voyez un petit peu ce que je veux dire?
Ça vous parle, docteur François Baumann, ce que
oui,
dit Sébastien?
Oui, je pense que c'est une... Oui, peut-être effectivement début de burn-out, ça me paraît être le terme, parce que je ne crois pas que Sébastien soit allé jusqu'au bout de ce burn-out au sens des symptômes de la dépression, d'après ce qu'il dit, mais peut-être qu'il allait y arriver s'il ne s'était pas repris.
Et Sébastien, du coup, vous travaillez toujours au même endroit, avec les mêmes
Justement, parce que par rapport à... des petits soucis qui ont été menés par rapport à ça. ça m'a mené à changer de travail et du coup je me suis retrouvé maintenant, donc du coup je travaille dans un autre milieu, c'est de l'industrie, c'est voilà, et du coup je me suis retrouvé d'autres collègues, je me suis changé, je me suis permis aussi, et ça m'a aidé justement à changer de collègue, donc du coup à voir autre chose. J'ai eu entre guillemets cette chance là c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont toujours avec les mêmes personnes, pour changer les choses, pour changer soi-même entre guillemets et se retrouver toujours dans le même contexte, ça va être plus difficile. Moi j'ai eu la chance, là je change, donc j'ai peur entre guillemets reprendre un nouveau départ avec de bons conseils justement d'un simple médecin entre guillemets, hein, d'un simple médecin généraliste qui des peu de ses conseils m'ont suffi moi à faire à ce que ça, je passe le cap.
Et aujourd'hui vraiment, vous vous sentez mieux Sébastien?
Et aujourd'hui je me sens mieux, et aujourd'hui c'est pareil, j'ai fait du coup l'effort de travailler sur moi, et de m'ouvrir aux autres personnes, de demander les critiques et de les accepter, c'est ça qui a vraiment changé la chose en fait.
Et ça, c'est vrai que c'est très intéressant ce que dit Sébastien François Baumann, parce que l'une des reconstructions majeures après le burn-out, c'est justement de changer de vie. Et vous le dites d'ailleurs dans votre livre, l'après-burn-out, il faut surtout pas, enfin dans l'idéal, revenir dans le même endroit où on travaille, au même poste, et avec toutes les habitudes qu'on avait juste avant,
oui,
de tomber en dépression.
Certes, il faut essayer de changer, comme ce monsieur le décrit. Ce qui est pour lui, c'est une révolution, c'est 380 degrés, si j'ai bien compris. Parce que entre s'occuper de remontée mécanique et faire le travail qu'il fait maintenant, je crois qu'on a tout changé, et probablement c'était un très bon conseil qu'on lui a donné. Ceci dit, tout le monde n'a pas cette possibilité de changer complètement de métier. C'est pas une évidence, mais c'est certainement quelque chose vers lequel il faut aller, et il faut être patient, je dirais. Quand on a eu un burn-out, il faut pas se précipiter. C'est ça la recette pour pas récidiver. Il faut prendre son temps, il faut aller jusqu'au bout de ce pourquoi on a souffert, c'est-à-dire l'analyser, comme le dit aussi ce monsieur très justement, comprendre qui il est, pourquoi ça lui est arrivé, qui sont les autres, etc.
Merci beaucoup Sébastien pour ce témoignage depuis les Vosges. C'est vrai que c'est pas évident aussi, hein, de revenir sur une souffrance comme ça qu'on a eue. Ça demande du courage, hein, d'en parler. Donc merci beaucoup Sébastien d'avoir pris la parole. Merci à Evelyne. Et vous qui nous écoutez ce soir sur France Bleu, appelez-nous aussi pour nous parler de votre expérience. Hein, comment vous vous êtes reconstruit après le burn-out que vous avez peut-être traversé professionnellement, socialement? Quelles ont été les difficultés à affronter aujourd'hui? Vous en êtes où? Comment vous en êtes sorti? On se dit tout sur l'après-burnout, comment on vit après avoir vécu un épuisement professionnel. Prenez la parole ce soir et rejoignez-nous au 0810 055 056.
Partagez vos bons conseils. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu.
Vous avez toujours été un bon élément dans votre boulot, vous avez beaucoup donné, trop donné, et malgré les signaux, vous ne vous êtes pas arrêté. Vous avez vécu cette impression d'être vide, de ne plus rien ressentir, de ne plus être utile. Vous vous êtes surinvesti dans votre travail, sans en éprouver plus aucun plaisir, et ce jusqu'à ce que ça craque. Vous avez connu ce qu'on appelle le burn-out, l'épuisement professionnel. Alors ça a été dur, très dur, hein, de remonter la pente. Et depuis, vous avez fait du chemin, et vous vous êtes peut-être reconverti, vous avez repris le travail. En tous les cas, vous en êtes sorti. Et finalement, ce burn-out, il aura peut-être été bénéfique pour vous. Il aura servi à faire un point sur vous-même, sur vos propres limites. Racontez-nous votre histoire. Rejoignez-nous ce soir. On se dit tout sur l'après-burn-out au 0810 055 056 avec le docteur François Baumann qui est à votre écoute. Et en parlant justement de quelqu'un qui a su se reconstruire après l'épuisement professionnel, direction l'Île-de-France avec Rachel. Bonsoir Rachel.
Bonsoir.
Alors Rachel, vous avez fait un burn-out.
Ouais, effectivement, ouais.
Et vous avez eu vraiment beaucoup de pression puisque vous étiez responsable, c'est ça?
Ouais, j'étais responsable qualité dans la grande distribution. Mmh. C'était un métier un peu compliqué. Et comme souvent, malheureusement en France, la qualité, c'est pas très très bien vu. Mais bon...
C'est-à-dire
s'en sortir. Souvent et surtout dans la grande distribution, voilà, on a tendance à croire que la qualité, c'est un poste où on dépense, mais ça rapporte pas forcément.
Oui, c'est pas rentable.
Donc, voilà, c'est pas rentable. Et voilà, Donc, pour faire assez court, tout simplement, en fait, c'est un boulot qui est assez prenant, que j'adore, et encore maintenant que j'adore. C'est un métier vraiment passionnant. Et j'ai eu pas mal de problèmes de santé. Et j'ai ressenti de la part de ma direction et de la part de mes collègues, du coup, un certain malaise, mis de côté, traité un peu comme une moins que rien, qu'on pouvait pas me faire confiance parce qu'il y avait des jours où il fallait que je sois absente pour diverses raisons personnelles, du coup, et c'est là où ça a commencé à mal se passer et à ressentir ce burn-out.
Et voilà. Comment vous l'avez ressenti? Comment il se manifestait, Rachel?
Comment il m'a manifesté? C'était simple. En fait, je me rendais tellement malade que je vomissais tous les matins avant d'aller au boulot. Ah oui. Avec une grosse boule au ventre à chaque fois que je passais la porte de cette entreprise. Et c'était vraiment, je me sentais mise à l'écart, tout le temps dévalorisée dans mon métier. Enfin bon, c'était quelque chose qui était assez dur et compliqué à vivre, jusqu'au jour où j'ai eu de plus gros problèmes de santé et j'ai craqué. Je pouvais plus y aller. C'était impossible pour moi de m'habiller le matin et d'y aller. Voilà.
François Baumann.
Oui, je vous écoute avec attention. Vous avez dit que vous aviez eu des problèmes de santé avant, en fait, de faire ce burn-out. De quoi s'agissait-il ?
C'est un peu compliqué, mais j'ai fait une grossesse extra-utérine et j'en ai refait une autre avant de vraiment craquer. Et voilà.
D'accord. Donc vous étiez fatiguée, en fait, aussi par ces différents problèmes que vous avez subis.
Oui, voilà, complètement.
Et est-ce que vous en parliez, Rachel, de ce burn-out au moment où vous n'arriviez plus à aller au travail? Est-ce que vous aviez des oreilles, des confidents?
J'en ai eu un, et encore aujourd'hui, à part mon compagnon, heureusement qu'il était là, qu'il essayait de me comprendre de me faire avancer. Et aussi, j'ai eu un collègue de boulot qui m'a suivi, qui m'a conseillé. Voilà. Et c'est grâce à eux, et c'est surtout pas grâce à ma direction que je m'en suis sortie.
D'accord. Ouais. Et du coup, comment ça s'est passé après, Rachel, pour remonter? Ça a duré combien de temps déjà, ce burn-out?
Pratiquement 2 ans. Pratiquement 2 ans.
2 ans sans travailler?
Non. J'ai eu 2 ans où je me rendais malade avant d'y aller travailler. Et ce burn-out, je l'ai vécu pendant pratiquement 2 à 3 mois où c'était plus possible, jusqu'à faire ma dernière GEU. Voilà.
Et alors, vous nous avez dit qu'aujourd'hui, vous êtes formatrice dans la prévention des risques au travail. Donc, vous avez complètement changé de voie. Comment ça s'est passé, ce revirement?
Pour faire simple, j'avais déjà pris la décision de partir de cette entreprise, de quitter la grande distribution et de me reconvertir. Je savais pas forcément dans quoi. Et puis un jour, une opportunité, et je me suis dit, pourquoi pas. J'ai passé des entretiens et aujourd'hui, je suis formatrice en prévention des risques professionnels. Et ça m'intéresse fortement. Je suis heureuse. Et je me sens revivre.
Ah, ça fait plaisir à entendre, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, François Baumann, le burn-out a au moins peut-être l'avantage de se trouver. Vous avez l'impression, Rachel, de vous être redécouverte?
Complètement. Je ne pensais pas que j'étais capable de faire ça.
Voilà. Oui, non seulement redécouverte peut-être, mais aussi vous avez pris conscience d'un certain nombre de problèmes que vous ne voyez pas lorsque vous étiez en activité dans ce premier travail. C'était la révélation quand même, quelque part. Ça a pu servir aussi à ça. Enfin bon, ceci dit, c'est une épreuve. Hein. C'est pas du tout quelque chose de souhaitable en soi. Mais après, il faut en tirer, je crois, des enseignements positifs, ce que vous avez l'air d'avoir fait réellement.
Oui. Aujourd'hui, je sais où sont mes limites. Je sais jusqu'à quel point je peux aller. Et surtout, j'essaye de ne pas retomber là-dedans. Quoi.
Et vous, et justement, de quelle manière vous essayez de ne pas retomber? Est-ce que vous vous êtes fixé des règles, Rachel, dans votre travail, par exemple?
Notamment de ne pas ramener le boulot à la maison.
Ouais. Voilà.
C'est compliqué, mais on y essaye.
Ouais, c'est ça aussi, hein. Ne peut-être pas consulter sa boîte mail pro, essayer de vraiment cadrer sa vie privée avec sa vie professionnelle.
Ça, on a dû vous donner ces conseils-là. De même, mais vous avez aussi une famille probablement qui vous prend aussi peut-être en même temps du temps et de l'énergie. C'est cette accumulation souvent dont il faut se méfier. Hein. Je pense qu'il faut être attentif à ça.
En tous les cas, bravo Rachel pour votre parcours. Bravo. Et bravo aussi d'avoir partagé ça avec nous, d'avoir témoigné, parce que c'est pas forcément facile de revenir sur des périodes difficiles comme celle-ci. Belle soirée à l'écoute de France Bleu.
Oui. Pour toutes les personnes qui vivent du burn-out, essayez de vous raccrocher à votre famille. Et moi, je remercie mon compagnon parce que c'est grâce à lui que j'en suis sortie.
Oui, tout à fait.
Comment s'appelle-t-il, voilà. Rachel?
Jean-Marc, et j'embrasse, je lui fais un bisou et j'arrive.
Jean-Marc qui nous écoute, alors on vous embrasse tous les deux, Rachel et Jean-Marc, excellente soirée et encore merci d'avoir été avec nous. On se dit tout ce soir sur la période après burn-out. Vous avez connu l'épuisement professionnel, la dévalorisation, vous vous êtes senti en état de dépression professionnelle et depuis vous vous en êtes sorti, vous avez remonté à la surface, vous êtes remonté à la surface et vous pouvez témoigner ce soir. On vous invite à vous confier, faites comme Evelyne, Sébastien et Rachel qui ont pris les devants et qui nous ont appelés au 0810 055 056 pour nous confier leur témoignage. On se dit tout ce soir sur l'après-burnout avec notre grand témoin, le docteur François Baumann.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout, Ségolène Aluny.
Vous avez vécu ce qu'on appelle un burnout, vous avez éprouvé cette sensation d'être nul au travail, de ne plus servir à rien, de ne plus savoir rien faire. On parle de votre expérience ce soir, vous qui avez connu l'épuisement professionnel. On se dit tout sur l'après-burnout, sur la phase de reconstruction qui est délicate hein, parce que c'est vrai qu'on reste fragile. Il faut apprendre à poser des limites dans son travail, à les respecter et puis apprendre aussi à se faire respecter. Vous avez appris à ne plus culpabiliser, à ne plus tout porter sur vos épaules. Vous avez appris à dire non peut-être à votre patron, à vos collègues. Et ça, c'est peut-être le burnout qui vous l'a inculqué. Quelle a été votre expérience bénéfique du burn-out et où en êtes-vous aujourd'hui? On se dit tout sur votre parcours professionnel frappé par cette dure épreuve de l'épuisement. 0810 055 056 et pour l'évoquer avec vous ce soir, notre grand témoin, le docteur François Baumann, auteur du livre, un titre tout trouvé, le livre L'après-burn-out, comment éviter les pièges de la rechute. Et pour en parler ce soir, direction la Haute-Savoie avec un témoignage, celui d'Anthony. Bonsoir Anthony.
Bonsoir.
Alors Anthony, vous avez fait un burn-out. Les symptômes, en gros, c'est que vous étiez vraiment dans un complexe d'infériorité. Vous n'aviez pas confiance en vous.
C'est ça, parce qu'en fait, c'était mon premier travail. J'ai que 21 ans.
D'accord.
Donc, c'est vrai que c'était un peu difficile de rentrer dans un cadre de travail, en sachant que là où j'étais, toutes les personnes se connaissaient déjà depuis longtemps et travaillaient ensemble depuis longtemps. Donc ils étaient plus ou moins quand même eux en groupe, donc c'est assez dur de rentrer dans un groupe. Mmh. Donc du coup c'est vrai que j'avais l'impression que je connaissais pas exactement ce travail, donc j'avais du mal à le faire et donc je me rabaissais un petit peu en me disant que j'y arrivais pas.
Vous aviez l'impression que on vous dévalorisait, qu'on se moquait de vous?
C'est ça, oui, et puis les réflexions aussi de mes collègues, qui étaient difficiles à entendre.
De quel genre, les réflexions?
Comme quoi j'étais nul, que je savais pas y faire, enfin voilà. Mm. Mm.
Et du coup, c'était il y a combien de temps, Anthony?
Il y a 2 mois, à peu près.
Ah oui, c'est très très récent.
Oui, tout à fait. Oui.
D'accord. Docteur,
oui, et en quoi vous avez pensé que vous aviez abouti à un burn-out? Quels sont les signes que vous avez eus? Qu'est-ce qui vous a fait le plus de mal enfin, dans tout ça?
Après, je ne sais pas si exactement on peut considérer ça comme un burn-out ou comme c'est parti comme une dépression ou un rejet de l'autre. Enfin, j'ai du mal à faire la différence entre les deux, en fait.
Oui, parce que c'est ça, en fin de compte, on ne sait pas forcément où se place le curseur, François Baumann, pour savoir ce qu'est un burn-out.
Non, bien sûr, c'est une entité assez, assez vague, finalement. Bon, ça donne des symptômes communs, il y a une définition. On a un burn-out quand on a un certain nombre de symptômes, ça on le sait, qu'on retrouve dans les différentes interventions qui ont eu lieu là depuis tout à l'heure. Mais après, ça touche au mal-être aussi, simplement, ou à la dépression, comme vous dites, ça ressemble beaucoup.
Et donc, Anthony, vous étiez proche quand même d'un état dépressif et vous avez consulté une psychologue.
Voilà, tout à fait, parce que j'avais vraiment plus envie d'aller au travail, j'y allais, je me forçais honnêtement, et c'était pas facile, quoi, parce que quand j'étais là-bas, j'avais pas envie de travailler, j'avais du mal à travailler aussi. Mm. Donc oui, tout à fait, voilà. Et je suis toujours régulièrement une psychologue.
D'accord.
Qui m'aide à avancer dans ça, justement.
Et vous travaillez toujours ou ça s'est terminé votre
Alors,
boulot?
Non, j'avais arrêté justement.
D'accord. Et donc vous continuez de voir cette psychologue pour faire un travail sur vous. Concrètement, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'elle vous fait faire?
Alors oui, ça se passe bien. On travaille un peu sur le regard des autres surtout, parce que c'est vrai que j'ai un problème assez avec ça. Mmh. Le problème de mal faire, enfin voilà, qu'on se moque de moi, enfin voilà.
Et c'était un problème que vous aviez déjà auparavant, vous aviez déjà subi ce genre de malaise avant,
oui,
de me faire ce travail. Vous aviez déjà eu des épisodes qui ressemblaient à ça dans votre histoire?
Oui, tout à fait, oui.
D'accord. Et vous dites que vous allez mieux aujourd'hui, Anthony. Vous sentez que ça avance dans votre tête, que cette expérience,
oui,
en tout cas, vous a été bénéfique, si je puis dire, que du coup vous avancerez pour la prochaine expérience professionnelle?
Oui, c'est ça, tout à fait. C'est vrai que maintenant, j'arrive à me remettre en question dans une bonne voie et j'ai plein de projets en tête que j'espère réussir à aboutir.
Très bien. Eh bien, merci pour ce témoignage. Merci d'avoir eu le courage d'en parler. En tous les cas, Anthony, on vous souhaite de la réussite, hein, surtout à tout jeune que vous êtes. Je suis sûre que ça va aller de mieux en mieux. Merci en tous les cas de votre appel.
Merci.
Depuis la Haute-Savoie. Belle soirée, Anthony.
Merci à vous aussi. Bonne soirée.
Bonne soirée. Donc là, clairement, le recours à la psychologue, en tous les cas, en parler, ça peut faire du bien. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des prises de médicaments pour lutter contre le burn-out.
Oui, mais bon, la parole, talking cure, quoi, pour parler
talking
comme
cure.
Freud, on va dire, c'est quand même l'élément essentiel. C'est-à-dire que les gens ont besoin d'exprimer ailleurs que dans la famille. Quelqu'un nous a parlé tout à l'heure de sa famille, qui a une oreille patiente, mais qui, au bout d'un certain temps, n'en peut plus. Donc
voilà.
Il faut trouver quelqu'un d'autre pour être écouté.
Et vous, quel a été votre parcours après le burn-out? Confiez-vous ce soir, on est entre nous. On se dit tout auprès du docteur François Baumann, 0810 055 056.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout, Ségolène Aluny.
Vous avez réussi à faire passer votre bien-être avant votre travail. Vous sortez d'une période de burn-out et vous avez réussi à trouver un meilleur équilibre entre votre profession et votre vie privée. Vous avez décidé de vous écouter et de ne plus considérer cette épreuve comme un échec, mais bien comme une période qui vous a aidé à vous reconstruire. Appelez-nous ce soir pour témoigner sur votre après-burnout, vous qui avez peut-être vécu cet épuisement professionnel qui touche de plus en plus de monde maintenant en France. Prenez la parole au 0810 055 056. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. On se dit tout avec le docteur François Baumann qui est à votre écoute. Direction la Haute-Savoie, encore cette fois avec Bruno au bout du fil. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Ségolène, bonsoir au professeur.
François Baumann à votre écoute, le docteur. Vous avez fait un burn-out et c'était assez, assez sévère, Bruno.
C'était en 2013, oui. Et ce qui est paradoxal, c'est que j'étais à l'époque formateur en gestion de stress.
Ah, oui.
Donc voilà, j'ai expliqué aux autres comment ce qu'il fallait faire pour s'en sortir et moi je me le suis pas appliqué. Donc effectivement, ce burn-out a été doublé d'une dépression parce que quand on fait un burn-out, il y a tout qui explose autour. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est la maladie des premiers de la classe, donc j'étais devenu perfectionniste mais à l'extrême. Et donc, voilà, j'en devenais cynique, j'en devenais extrêmement fatigué. Et il y a un jour où j'ai pas pu me lever pour partir au travail.
C'est fou, ça revient souvent, ça. D'un coup, on ne se lève plus le matin. Mais on le sent, vous le sentiez venir, Bruno, ou vous mettiez des œillères?
Pas du tout, pas du tout, puisque une semaine avant, j'avais passé une visite médicale professionnelle et on m'avait dit que j'étais apte.
Ah oui.
Donc, c'est un des signes.
C'est un des signes, François.
Oui, c'est un des signes du burn-out, enfin du burn-out, du syndrome de burn-out, ce que décrit ce monsieur très très clairement, c'est-à-dire cette impossibilité de se lever, cette fatigue énorme qui vous tombe dessus, et puis cette dépersonnalisation éventuellement, ça il ne nous en a pas tellement parlé, mais on arrive finalement à un épuisement complet, émotionnel et psychique et physique, enfin.
Ouais. Et Bruno, du coup, comment ça s'est manifesté après, par la suite, qu'est-ce que vous avez fait?
Alors sur le coup, c'était comme si on avait débranché la prise d'un appareil, hein. J'avais plus d'énergie du tout. Et puis j'ai trouvé des mains tendues, notamment une personne qui m'a fait faire de la méditation. Et grâce à la méditation, j'ai pu m'en sortir. Je dis grâce à la méditation, il y a eu d'autres mains tendues qui étaient ma famille autour de moi et puis quelques amis. Mais c'est cette méditation qui m'a permis de savoir qui j'étais, de me retrouver, de me rééquilibrer et de pouvoir m'en sortir. Et aujourd'hui, je suis content d'avoir fait du burn-out parce que je suis devenu quelqu'un.
Oui, ça c'est très positif, c'est important pour les gens qui nous écoutent de positiver comme ça cette grave maladie finalement. Et quel type de méditation avez-vous fait? Vous savez ce que c'était comme méditation?
C'est une méditation dite Vajra.
D'accord.
Une méditation tibétaine.
Comme un yoga.
C'est ça?
Oui,
Vajra.
Oui, c'est ça. C'est ça. C'est une introspection sur nous-mêmes, et surtout de rééquilibrer par rapport aux quatre éléments, etc. Mais ces personnes-là qui m'ont permis de m'affirmer et de me poser, d'avoir les pieds sur terre aujourd'hui, et de savoir vraiment qui je suis, parce que j'étais plus personne. De travailler comme ça jusqu'à la perfection, trop de perfection, on se dépersonnalise effectivement.
Est-ce quelque chose que vous aviez déjà dans le passé, que vous aviez déjà eu ce sentiment de perfectionnisme dans d'autres circonstances?
Oui, je pense que j'ai toujours voulu prouver que j'étais quelqu'un et je voulais me faire aimer en fait. Donc je cherchais de la reconnaissance et reconnaissance que j'ai pas trouvée. Et jusqu'à apprendre par la méditation que cette reconnaissance elle n'est qu'illusion et que on peut vivre sans ça et qu'on peut vivre très bien sans ça en prenant soin de soi.
Et aujourd'hui, Bruno, vous travaillez de nouveau?
Non, je suis en invalidité. J'ai pas pu reprendre le travail. J'ai été licencié, donc un an après, pendant mon arrêt maladie. J'ai été licencié et donc sur les conseils du médecin de la sécurité sociale, ils m'ont mis en invalidité puisque je suis à 2 ans de la retraite.
D'accord.
D'accord. Et vous prenez des médicaments en plus? Vous avez pris des médicaments en plus de cette méditation?
Oui, bien sûr. J'ai pris des antidépresseurs. Donc sur le départ, au bout d'un an et demi, j'ai arrêté ces antidépresseurs parce que je me rendais compte que je perdais la mémoire. Il y a des problèmes aussi dus au burn-out qui sont des problèmes physiologiques, de neurotransmetteurs. Donc j'ai pris énormément de poids avec ce burn-out. Et donc c'est handicapant aussi à ce niveau-là.
Et c'était pas en rapport avec les antidépresseurs, ce poids, cette prise de poids, vous savez pas?
Je pense pas. Enfin, moi, je m'étais renseigné parce que quand on fait, j'ai entendu un de vos témoignages tout à l'heure, une personne qui a témoigné. Quand on fait un burn-out, on a envie d'aider ceux qui y sont. Le problème, c'est que quand on fait un burn-out, on fait surtout un déni parce qu'on veut pas le reconnaître qu'on est malade. Et donc, j'avais essayé de monter des groupes de parole, mais le problème, c'est que je trouve personne parce que les gens ne sont pas prêts à parler tout de suite. Alors, ils parlent de l'après burn-out, effectivement, comme ce soir, c'est plus facile. Mais quand on est dedans,
plus compliqué à en parler selon vous. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, François Baumann?
Non, je pense que c'est très bien. Ça prouve que vous êtes bien sorti de votre affaire, parce que reparler des soucis graves qu'on a pu avoir, il faut s'en méfier. Et il faut pas, par exemple, que ça redonne un certain nombre d'idées du passé qui reviennent et qui, à ce moment-là, peuvent vous faire du mal. Mais quand on est bien guéri, ce qui a l'air d'être votre cas, je crois que vous êtes à l'abri. Et donc, c'est bien d'essayer de faire parler les gens après. C'est ce qu'on fait ce soir.
Je suis entièrement d'accord avec vous parce que maintenant j'ai plus envie d'aller faire parler les gens.
Ah, d'accord.
Je suis sorti de ça et j'en parle ce soir parce qu'on parle de l'après burn-out et donc je voulais témoigner là-dessus en disant on s'en sort, on peut s'en sortir et il faut apprendre à prendre soin de soi.
Eh bien, merci et bravo pour votre parcours, Bruno. C'est beau à entendre et ça fait plaisir en tout cas de savoir que vous vous êtes découvert et que vous vous sentez bien aujourd'hui. Belle soirée, merci de nous avoir appelés.
Merci.
Sur France Bleu ce soir. Vous avez fait un burn-out sévère, c'est peut-être aller loin jusqu'à la tentative de suicide, hein, parce que ça peut aller jusque-là aussi. Mais vous avez réussi à vous en sortir, vous avez pris les devants, seul ou avec l'aide de quelqu'un, d'un pro, de proche, ou peut-être de la méditation, comme Bruno qui vient de nous appeler. Où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce qu'on travaille aussi à ne pas rechuter? Comment travaillez-vous sur vous? Racontez-nous, on se dit tout ce soir sur l'après-burn-out, en compagnie de François Baumann, médecin généraliste et spécialisé donc dans le burn-out, auteur du livre L'après-burnout.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu.
Oui, ce soir, on a choisi de parler de votre expérience, de cette dure traversée que vous avez peut-être vécue, le burn-out, comment on en sort. Vous avez réussi à sortir la tête de l'eau, vous vous êtes reconstruit après cette phase compliquée. Est-ce que vous en profitez maintenant pour prendre du temps pour vous? Parce qu'on est fragilisé, c'est vrai, après un burn-out. Méditation, yoga, vous avez appris à écouter votre corps, à vous ménager. Racontez-nous votre nouvelle vie, l'après-burn-out. On en parle ce soir avec notre grand témoin, le docteur François Baumann, qui est à votre écoute. Jean-François, vous nous appelez depuis la Haute-Savoie. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir à tous.
Alors, vous avez subi un burn-out et vous étiez responsable, hein, c'est ça, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes arrivé. C'est arrivé très vite, cet épuisement professionnel, Jean-François ?
Ouais, très rapidement, oui. J'ai pu intégrer une société où il y avait, dans le service que je devais diriger, des personnes qui étaient très... avec une grande animosité avec le futur responsable.
Ouais.
Donc tout était négatif, j'étais bon à rien, j'étais incapable, je ne savais pas faire.
Ils vous ont pas laissé de chance, quoi ?
Aucune, aucune chance. Et ce burn-out est arrivé où je me demandais, quand je rentrais chez moi, c'est-à-dire que j'avais à peu près une heure et demie de route, à essayer de viser un poids lourd pour essayer de mettre ma voiture contre.
Ah ouais.
Parce que j'en avais ras-le-bol, j'étais bon à rien, je ne savais pas faire, je ne savais plus faire. Après 45 ans d'expérience quand même.
C'est arrivé, cette envie suicidaire, hein, du coup, on peut le dire, Jean-François. C'est arrivé assez rapidement. Enfin, au bout de combien de temps vous avez tout lâché, vous avez craqué ?
Quelques mois, puisque j'étais, bien entendu, quand on intègre une nouvelle société, il y a quelques temps d'adaptation,
Oui, il n'y a pas de souci. On comprend votre émotion, Jean-François.
Oui, merci beaucoup. Ce temps d'adaptation à une nouvelle entreprise, on a en général 3 mois ou 6 mois pour les 4 que j'étais. Et au bout de quelques temps, je me suis pratiquement persuadé que j'étais plus bon à rien, quoi.
Vous nous parlez de ce camion sur lequel vous aviez envie d'emboutir. Vous aviez des idées suicidaires et c'est à partir de là que vous vous êtes véritablement inquiété de votre état, que vous avez commencé à vous dire que ça ne pouvait pas durer.
Je me suis inquiété de cet état et puis il est arrivé un flash où un jour je visais justement un poids lourd. J'ai dit, s'il arrive celui-là, c'est pour moi. Et un appel de ma petite fille, on m'a dit « Papy, tu viens me chercher, je suis en vacances. »
Et là, vous êtes dit « je peux pas lâcher comme ça baraque. » Ouais.
Voilà, je peux pas lâcher.
Et alors, à partir de quand, Jean-François, vous êtes dit je me reprends en main? Comment vous avez fait pour reprendre des forces?
Ouais. C'était un concours de circonstances,
ouais,
où un de mes plus proches compagnons m'a dit « je démissionne ». Et là, je me suis dit « un de moins ». Et puis après, je me suis dit « s'il y a un de moins, il y aura peut-être deux de moins ». Et il y en avait trois dans mon effectif.
Donc ça, c'était les équipes, c'était les employés que vous dirigiez, c'est ça, Jean-François ?
Que j'ai dirigé, voilà. Et d'un seul coup, ça a été mieux, beaucoup mieux pour moi. Donc voilà, après j'ai repris du poil de la bête, où je me suis affirmé, où mes supérieurs m'ont aidé, puisque j'en ai parlé en disant je peux plus.
Vous avez réussi à en parler, du coup. Vous communiquez.
J'ai réussi à en parler, ouais. J'ai réussi à m'en sortir. Et voilà, j'ai réussi à prendre la bête et maintenant je suis très content puisque...
Donc vous êtes toujours au sein de la même entreprise, c'est ça, Jean-François ?
Maintenant je suis retraité.
D'accord.
J'ai arrêté et mon plus grand bonheur, c'est les nouveaux compagnons que j'ai embauchés, parce que quelques-uns sont partis, où j'ai pu moi-même embaucher de nouveaux compagnons et j'ai pu arriver à former une équipe où on s'est affirmé, où on a avancé dans l'entreprise, où on a mis tous nos objectifs, mes objectifs en place. Et
donc vous avez finalement, vous avez en quelque sorte surmonté l'obstacle et réussi à améliorer finalement votre situation personnelle et probablement aussi celle des autres quelque part.
Mais c'était très dur. J'ai passé de très mauvais moments, mais.
Voilà, on sent d'ailleurs que ça vous touche toujours, Jean-François. Période compliquée, mais que c'est tout à votre honneur, hein, puisque vous avez réussi à tout surmonter, comme le disait le docteur François Baumann, en restant dans cette même entreprise et en reformant votre équipe. Merci et bravo, hein, d'avoir eu le courage encore de témoigner ce soir depuis la Haute-Savoie. Belle soirée, Jean-François. Et tout de suite, nous dirigeons en région parisienne pour recueillir le témoignage de Gérard. Bonsoir, Gérard.
Oui, bonsoir Ségolène et bonsoir docteur.
Bonsoir.
Voilà, je voulais apporter mon témoignage. Je suis très content que vous abordiez le sujet parce que c'est quelque chose, le burn-out. Mm. Et surtout, au-delà de ça, sur le débat, sur le harcèlement moral, quoi. Parce que j'ai eu l'occasion, il faut remonter dans les années 80, à vivre ça au sein d'une entreprise. C'est-à-dire que je cumulais pendant une période d'été deux boulots. J'étais à la fois chauffeur de direction et en même temps, je cumulais un travail administratif. Et au tout dernier moment, il y a eu saturation. J'ai eu le malheur d'arriver en retard et il y a un directeur qui m'a insulté de tous les noms. Et après, on a eu l'occasion de se dire des mots et par la suite, j'ai été fiché à l'encre rouge. En plus, il s'apercevait que au sein de l'entreprise à l'époque, j'étais relativement assez affable, plutôt pas mal. Donc ils arrivaient à trouver le point faible, c'est-à-dire que petit à petit, ils m'ont fait un harcèlement moral intense qui a failli aller jusqu'au suicide, hein. C'est-à-dire que petit à petit, dans mon parcours professionnel, j'étais très carriériste. On essayait de me dévaloriser au maximum. On me disait que je détruisais personnellement mon initiative personnelle des documents confidentiels. Une fois, j'ai un directeur qui voyait que je discutais avec une de mes collègues. Il m'a dit, écoutez, on va discuter dans mon bureau, on va parler littérature. Et puis après, il me dit, écoutez, les yeux dans les yeux, voilà, je peux me vanter d'avoir fait suicider les gens, quoi. Et ça a été comme ça, ça a duré. J'ai tenu pendant 2 ans. Hein. J'ai même des... Après, j'ai eu arrêt de maladie, et j'ai eu deux collègues qui ont été voir à l'époque, on appelait ça le chef du personnel, c'était ce qu'on appelle maintenant le DRH. Et quand ils ont été le voir en disant écoutez, arrêtez de vous acharner sur lui, etc. Et ils lui ont dit vous couchez avec lui, quoi. Vous voyez, c'était carrément, c'était kafkaïen, quoi. Par la suite, j'ai...
Comment ça, vous couchez avec lui? Qui faisait cette réflexion, Gérard? J'ai pas compris.
C'était le chef du personnel.
Qui vous accusait de coucher avec lui, avec votre patron?
Carrément. J'étais fiché à l'encre rouge, hein, c'est-à-dire qu'après les directeurs changent, hein, moi j'ai continué à insister, ils m'avaient mis... Mais c'était quelque chose de fou, quand je reprenais mon travail, ils m'avaient mis quelqu'un au-dessus de moi qui allait inventer des choses. Hein. Bon, quand par exemple je formais un petit jeune à un certain poste, même pas une semaine après, j'étais convoqué par la direction autour d'une table ronde en me disant, voilà, il paraît que vous semez la zizanie dans le service. Je dis, ah bon, qui raconte ça? Et en fait, c'était le petit jeune qui venait d'entrer dans l'entreprise, à qui ils avaient promis un poste, qui était là pour témoigner que je mettais effectivement le bordel au sein de mon service, quoi. Alors, c'était que des cas comme ça, et petit à petit, j'ai craqué, parce que on se croit toujours plus fort. J'ai été voir un psychiatre, hein, qui m'a donné des médicaments.
Vous avez vu quelqu'un avant de au moment où vous avez craqué. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous avez eu un traitement un petit peu prolongé? Qu'est-ce qu'il y a eu?
Jusqu'à maintenant encore, hein, c'est des choses qui restent à vie, hein. Ce sont des choses qui vous poursuivent. C'est-à-dire que mon psychiatre m'a dit, écoutez, ce qu'on va faire, parce que c'était tout nouveau, hein, le harcèlement moral. Mais maintenant, on s'aperçoit quand j'entends les informations que...
C'est de plus en plus répandu, on n'est pas seul.
Oui,
ça fait combien de temps, Gérard?
Oh, ça remonte dans les années 80, c'était tout à fait novateur, ça venait d'arriver. Mmh. Et alors, vous voyez, ils vous détruisent votre personnalité, c'est-à-dire que le but, même quand j'avais des notes de fin d'année, on vous dit, voilà, vous êtes mal habillé, vous n'avez aucune conversation, tout était...
On trouve toujours quelque chose à vous reprocher, quoi.
Voilà, ce qui fait que moi, un jour qui n'était pas comme un autre, j'ai dit, écoutez, j'étais voir un des organisateurs qui était là, qui avait mis en place ces choses, et j'ai dit, écoutez, moi, si, plutôt que de faire une connerie, je m'en vais d'ici, parce que... Alors, par la suite, il vous reste un sentiment de violence, vous voyez, intérieurement, parce que automatiquement, la violence que vous ne exercez pas, vous la retournez contre vous.
Mmh. Et oui, vous encaissez. Et du coup, Gérard, voilà. Vous avez eu cette période de burn-out. Aujourd'hui, vous êtes encore aidé par un psychologue ? Non, c'est terminé.
Toujours. Ça a laissé des traces, ouais. Et je crois que ça laissera des traces à vie. Bon, j'ai eu la chance après de prendre conscience. Tout le monde me disait, bon, c'est la banque, faut pas quitter. C'est quand même un bon poste que tu as. Mais
vous travailliez à la banque donc auparavant, là où vous étiez harcelé, et ouais. Vous avez changé de voie depuis. Vous êtes vous travaillez maintenant dans autre chose.
C'est ce qui m'a permis de rebondir. Heureusement que j'ai une certaine force morale, c'est-à-dire mm-hmm. que je me suis dit bon bah je vais me reconstruire et je vais essayer d'aller dans une voie complètement différente. Et je me suis mis comme j'avais l'occasion de faire des brocantes et tout ça, hein, et j'ai eu l'occasion de me dire bon bah je vais me mettre à mon compte et je me suis mis commerçant à mon compte parce que je ne pouvais plus supporter le travail en entreprise. C'était toujours les mêmes schémas qui revenaient. Je voyais il y avait beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de choses que c'était toujours le même système qui revenait, quoi.
Et donc là, c'est vous qui gérez et il y a personne au-dessus de vous pour vous diriger.
Oui, voilà, vous avez utilisé la bonne voie pour rebondir finalement, c'est-à-dire de changer complètement vos critères de travail, ce qui est un gros effort, hein, et de prendre quelque chose de tout à fait autre. Et je pense que maintenant vous allez mieux quand même.
Ah, beaucoup mieux. Bon, moi, j'ai d'autres problèmes sur un autre plan. Mais surtout, ce que je voulais dire et témoigner, c'est d'encourager les gens qui doivent vivre ça. C'est-à-dire qu'on fait une sorte de parano à se dire, mais en fin de compte, on se remet en question et de se dire, bon, ben, c'est moi, je fais mal mon travail. Ça fait un peu comme quelqu'un devant un policier quand on vous accuse d'être coupable, quoi. C'est-à-dire que on porte toute la misère du monde sur soi-même et puis on peut aller jusqu'au pire. Donc, surtout de tenir bon, de se faire aider, et puis d'avoir des amis autour de soi, et puis d'essayer de pas hésiter à suivre une autre orientation, parce que c'est là qu'est la porte de sortie.
Merci beaucoup pour ce message d'espoir, en tous les cas, merci. Gérard, ça fait plaisir à entendre cette aura positive. Donc, l'après-burnout, on en parle tous ensemble, on écoute attentivement vos témoignages avec notre grand témoin, le docteur François Baumann, auteur de l'après-burnout, 0810 055 056. À tout de suite.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
On se dit tout sur le burn-out, l'épuisement professionnel qui impacte toute notre vie et qui peut conduire à des situations dramatiques. Quelles ont été les causes de votre burn-out et comment vous en êtes sorti ? On se dit tout ce soir avec le docteur François Baumann qui est notre grand témoin. Nous sommes en Gironde ce soir avec le témoignage de Valentin. Bonsoir Valentin.
Bonsoir.
Alors Valentin, vous avez connu hein, le burn-out dans votre entourage, burn-out professionnel, hein, on est bien d'accord, Valentin ?
Ben, pas vraiment en fait.
Pas vraiment.
Général, ouais, voilà, parce que c'est lié à la vie sociale, à la vie, à mes expériences professionnelles, voilà.
Alors tenez-vous près de votre téléphone, Valentin, parce que on a une sensation d'éloignement. Restez bien proche.
Je suis vraiment prêt, en fait. Je suis prêt, au combiné, ouais.
Ça va beaucoup mieux. Donc,
d'accord.
Qu'est-ce que vous avez vécu de la pression venant de votre entourage familial ?
Non, c'est une pression sociale en fait.
Sociale.
Je pense que c'est involontaire, c'est tout le climat, voilà, je veux dire l'harmonie, j'aime beaucoup la musique, donc l'harmonie environnementale en fait, tout ce qui se marie, voilà, les ententes des uns et des autres, les pensées des uns et des autres, et puis les volontés de chacun, et voilà. Et
mais qu'est-ce qui vous faisait souffrir, Valentin ?
Moi, c'est... Alors, ma situation, c'est que j'ai fait 4 mois d'hôpital psychiatrique. Voilà, donc j'ai pris des médicaments, j'ai vraiment eu un traitement lourd et j'ai été traité pour dépression à la fois, mais problèmes mentaux, enfin voilà, c'était beaucoup de choses. En fait, on savait pas trop ce que j'avais.
Et à la suite de votre surmenage là, à la suite de votre stress, ou c'était autre chose ?
En vérité, j'ai pris des drogues avant. Voilà, j'ai une période très tourmentée. En fait, je suis sorti du milieu scolaire, je suis rentré à travailler, j'ai eu plusieurs petits boulots, j'ai travaillé en grande surface, enfin plusieurs travaux en fait. Mmh. Et c'est cette quête-là, on nous demande. Allô ?
Oui, on vous écoute, Valentin.
Pardon, excusez-moi, ça vibrait. En fait, on nous demande voilà de trouver un avenir et c'est vrai, je me suis lancé là-dedans éperdument. Voilà, j'ai enchaîné travaux sur travaux. Et en fait, au bout d'un moment, je crois que c'était le travail de trop. Je suis parti à l'étranger. Et puis après, j'avais aussi la période de drogue. Bon, j'étais pas non plus extrême là-dedans, mais ça a été quand même à pousser pour que ça me nuise à ma santé. Mm-hmm. Et voilà. Et du coup, en fait, à la sortie, ça a lâché un jour, quoi. Je me suis retrouvé enfermé et puis là, abusé effectivement sur les drogues douces.
Qu'est-ce qui vous a fait sortir de tout ça, Valentin ?
Qu'est-ce qui m'a fait sortir ? Eh bien, en fait, je me suis retrouvé simplement. J'ai arrêté du jour au lendemain la drogue. Voilà. J'ai dit, ça me détruit la santé. Et 2 mois avant de rentrer en formation, enfin, j'ai repris mon destin en main. Voilà. C'est comme un message venu de n'importe où.
Par curiosité, Valentin, du coup, votre travail, ce que vous avez appelé le travail de trop, c'était dans quel domaine ? Vous faisiez quoi ?
Alors, moi, j'étais en supermarché à l'époque, oui, c'est vrai. Parce que j'ai travaillé en commerce aussi, pour un grand groupe, et voilà, et dans un cinéma. Et puis ensuite donc, à ce centre commercial, ce supermarché. Ouais.
Et du coup, c'est le simple fait d'avoir arrêté les drogues qui fait qu'aujourd'hui vous allez mieux. Vous avez pas.
Oui, bien sûr. Ouais. En fait, l'idée c'est que j'ai pris un planning, voilà. Et du jour au lendemain, j'ai fait un planning, j'ai écrit qu'il fallait que je sorte, que je bouge, je reprenne un vie en main. Du travail. Voilà, j'ai pris une formation. Et si vous voulez, au bout de 2 mois de formation, c'est là où ça a claqué en fait. C'est que je me mettais à fond. Je suis passé du tout au tout. Ouais. J'étais à fond dans la drogue et du jour au lendemain. Je suis mis à fond dans mon travail en fait.
Et là, vous êtes fait aider pour redémarrer comme ça. Vous êtes toujours aidé peut-être.
Si vous voulez, au bout de 2 mois, je me suis arrêté, c'est-à-dire que je ne parlais plus à personne. Je suivais, j'essayais de prendre des sensations, de suivre le vent, voilà.
Alors ça, pardon Valentin, mais oui. Docteur François Baumann, est-ce qu'on peut parler de burn-out là ? C'est pas les symptômes de la dépression pure et dure qu'on connaît
Je ne sais pas s'il y a un surmenage derrière ce que vous expliquez. Vous expliquez que vous avez eu beaucoup de boulots différents, en fait, aussi. Et peut-être que vous en avez trop fait. Peut-être que vous avez fait ce qu'on appelle un syndrome d'usure, un petit peu, avec le travail. Et que c'est un burn-out. C'en est un, quelque part.
Merci en tous les cas d'avoir témoigné, Valentin, depuis la Gironde. On termine cette émission avec François, depuis la Haute-Normandie. Et c'est un témoignage un petit peu différent, puisque François, vous avez réussi à éviter un burn-out. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, racontez-nous, comment vous avez su que vous avez évité ce burn-out ?
Je tiens à préciser une chose, c'est que je travaille dans une administration, une grosse administration. Je suis cadre dans une administration où on nous fixe des objectifs importants. Je me suis consacré à mon travail, pas sur quelques mois, mais sur des années. Je me suis complètement livré à mon travail, peut-être même
au-delà de ce qu'on vous...
Pas forcément au-delà, parce que je pense que quand on est très professionnel et que on est enthousiaste dans son travail, on va peut-être prendre des risques. Ça fait partie du deal un petit peu.
Ça empiétait peut-être sur votre vie privée.
C'est aussi le danger, quand même.
Oui, c'est un danger, mais c'est un danger qui n'est pas mesuré, va-t-on dire, quand tout va bien, quand on a, on va dire, une hiérarchie qui vous y encourage, qui bah, vous appelait très très tard le soir, y compris le week-end, qui vous envoie des mails, qui attend une réponse de mail, etc., etc.
Donc vous n'arriviez pas à déconnecter, en somme, avec votre boulot.
Je déconnectais pas. Et ça avait même un impact sur ma vie privée. Et je pense que je tentais de m'expliquer auprès de mes proches en disant, en trouvant des excuses, on a toujours des bonnes excuses dans ces cas-là.
Comment avez-vous trouvé la solution alors de ce problème, puisque vous dites que vous avez réussi à éviter le burn-out?
J'ai évité, en fin de compte, si vous voulez, c'est que dans ma situation, quand il s'est produit quelque chose, c'est-à-dire, je vais pas rentrer dans les détails, c'est assez compliqué, quand il y a eu un grain de sable, c'est que dans ce cas-là, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que dans l'administration, en gros, c'est que pour se voiler la face, on tente de trouver des solutions palliatives et assez, entre guillemets, harmonieuses. Donc, quand j'expliquais ma situation avec ce grain de sable à mes collègues, qui sont des amis proches, tout le monde m'a dit, tiens, toi, tu vas changer de service. Et c'est ce qui s'est produit.
Vous avez eu des oreilles bienveillantes qui vous ont réorienté et qui vous ont évité.
Je peux pas me permettre de dire des oreilles bienveillantes. Ça serait mentir. J'ai une hiérarchie qui, faut pas se leurrer, des gens qui sont assez carriéristes et qui ont trouvé la solution qui était la mieux adaptée. Pourquoi ? Parce que j'ai eu la chance d'avoir un poste qui s'offrait à ce moment-là. C'est une chance, mais en même temps, la chance, c'est que le poste était pour aller travailler avec des gens que j'apprécie énormément. C'est cette chance.
Vous avez un commentaire, François ?
Oui, donc vous avez rencontré, comme vous le dites, de bonnes personnes, c'est-à-dire des gens qui étaient à l'écoute, malgré tout, de vos soucis. Et ça aide à se sortir du burn-out. Et je pense que, comme vous dites, vous avez eu beaucoup de chance à ce niveau-là.
Ouais. Merci de vous être confié, François. François qui voulait nous dire aussi, mais le temps nous est compté, qu'il croisait tous les jours des gens qui sont détruits et qui sont comme des zombies. Et justement, vous me disiez, François Baumann, que c'est terrible, en fait, quand on est dans une période de burn-out, on n'a plus du tout envie de voir ses collègues, ne serait-ce que voir la façade du bâtiment où on travaillait avant.
Bah, parmi les signes du burn-out, il y a la dépersonnalisation, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, finalement, cette espèce d'état dans lequel il peut se passer n'importe quoi, on s'en fiche un peu. Ça, plus rien n'a vraiment d'importance. On est zombies, oui, on peut le dire comme ça. Et probablement, ces gens que ce monsieur croisait, François, sont des gens qui étaient atteints à un niveau ou à un autre et déjà et qui n'en avaient pas conscience.
Ah oui, l'après burn-out, donc c'est pas évident, pas évident d'en parler. En tous les cas, vous avez été nombreux à le faire ce soir. Merci beaucoup, François, de nous avoir appelés depuis la Haute-Normandie. Merci aussi à Valentin, Gérard, Jean-François, Bruno, Anthony, Rachel, Sébastien et Evelyne qui ont joué le jeu ce soir.